Africa Radio, l'invité Nadir Djennad.
Jean-Pierre Auger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir ce matin dans nos studios d'Africa Radio. Vous êtes un ancien officier français, officier du secteur Afrique noire de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. La DGSE, ce sont les services spéciaux extérieurs français. Vous avez été tour à tour officier de liaison auprès des autorités nigériennes, conseiller spécial du président tchadien, chargé de mission à la présidence ivoirienne. Et vous avez publié un livre intitulé « Afrique à Dieu, mémoire d'un officier du secteur Afrique noire de la DGSE aux éditions Mareuil ». Ce livre est une plongée dans l'action secrète de la France et de ses services dans ses anciennes colonies africaines. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger vos mémoires? Est-ce par nostalgie à une époque où la France avait encore une certaine influence en Afrique francophone?
Oui, j'ai surtout voulu raconter un passé pas si lointain, ce que j'appelle le crépuscule de la France-Afrique, parler du secteur Afrique noire qui a disparu corps et bien, du moins tel que conçu depuis les années 60, depuis les indépendances, jusqu'à l'année 2000, et aussi rendre témoignage à tous ces chefs qui ont participé de cette connaissance de l'Afrique.
Quand vous parlez ces chefs, vous parlez
de l'ancien secteur, je veux dire, leur rendre hommage, car
vos
je
camarades,
suis
ceux qui ont
le
travaillé
dernier
avec vous.
Survivant qui était à la tête du secteur Afrique noire.
Alors vous avez évoqué le mot France-Afrique. Est-ce aussi pour apporter un témoignage sur ce qu'on appelle la France-Afrique, peut-être tordre le cou à certaines idées reçues sur les pratiques de la France et en particulier de ses services sur le continent africain?
Oui, alors la France-Afrique, il faut le rappeler, l'origine du concept, c'est quand même le président Fouet-Boigny et le général de Gaulle. Surtout après l'échec de ce qu'ils voulaient la relation de coopération privilégiée avec les pays africains. Cette France-Afrique, elle n'a pas fait, elle a évidemment eu des défaillances.
En visite à Dakar au Sénégal en octobre 2012, François Hollande, le président de l'époque, avait annoncé la fin de la France-Afrique. Est-ce pour vous la fin
oui,
de la France-Afrique?
Non, mais là, il est certain que la France-Afrique telle que nous l'avons connue, telle qu'elle a été pratiquée des années 60 à 2000, c'est terminé. Les sociétés africaines ont évolué et je serais tenté de dire les gouvernances françaises ont également évolué.
Dans ce livre, vous relatez plusieurs anecdotes. Par exemple, le 2 juin 1996, le Tchad est en ébullition. Le pays vient de voter lors de son premier scrutin pluraliste au suffrage universel. Le général Déby, qui a pris le pouvoir par les armes 6 ans plus tôt, est candidat à son maintien en poste. Et quelques heures après le dépouillement, vous êtes le premier étranger informé des résultats officieux scrutin. Vous étiez le conseiller spécial d'Idriss Déby. Parlez-nous de votre relation avec lui. Et est-ce qu'il écoutait vos conseils?
Oui, alors le président Déby, j'ai toujours eu beaucoup de considération pour lui, parce que effectivement, ce n'était pas ce qu'on appellerait un grand démocrate, mais il n'en rejetait pas pour autant les principes de la Baule, édictés par le président Mitterrand, et surtout, il a su pendant 30 ans préserver, ce qui est quasiment miraculeux, la paix civile au Tchad. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Quant à nos relations personnelles, je lui suis encore reconnaissant. Oui. Il ne m'a pas toujours tout dit, et le contraire eût été surprenant, mais il ne m'a jamais menti. Et nous avions des relations franches, et surtout, une capacité de transmission de dialogue entre Paris et lui qui était relativement bonne.
Comment avez-vous réagi après avoir appris sa mort au combat?
Il est mort comme le chef de guerre qu'il l'était, et le chef d'État qu'il l'était. C'était la mort d'un guerrier.
Oui. Et que pensez-vous de son fils, Mahamat Idriss Déby, qui est candidat à l'élection présidentielle du 6 mai? Est-ce qu'il continue de maintenir ce lien avec la France?
Alors là, je ne peux pas répondre parce que les Tchadiens sont par nature, par géographie, très divisés entre les Agaouas qui viennent du Soudan, les Goran du centre, les Toubou du nord, les Sara du sud. Je ne sais pas comment le fils de Idriss va pouvoir fédérer tout cela.
À votre avis, il a un conseiller spécial de la DGSE ?
Non, tout ça est terminé.
Tout ça est terminé.
C'est révolu. Maintenant, on travaille différemment.
Alors, vous avez été officier de liaison auprès des autorités nigériennes. Alors, aujourd'hui, le Niger est dirigé par des militaires comme le Mali, le Burkina Faso. Ces trois régimes sont très critiques vis-à-vis de la France. Est-ce que vous pensez que les autorités françaises ont été prises de court par ces coups d'État ?
Alors, ça, je ne sais pas. J'imagine et j'espère que les services spéciaux français étaient quand même alertés. Moi, je dis toujours... il y a des renseignements, ils sont transmis, c'est les politiques qui les utilisent.
Le président Emmanuel Macron avait laissé éclater sa colère contre le patron des services secrets, Bernard Aimier, lors du Conseil de défense du 29 juillet dernier. Emmanuel Macron avait reproché au chef de la DGSE de n'avoir rien vu venir concernant le coup d'État au Niger.
Écoutez,
a-t-il raison ? Avez-vous eu des échos concernant cette colère du président Macron ?
Non, je n'ai aucun écho. Ce que je sais, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paie. Pour le Greenpeace, c'était le ministre de la Défense. Pour le Niger, c'est M. Aimier. Pour l'armée, c'était le général chef d'état-major de Villiers. Mmh. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui paie. Alors maintenant, vous dire qui paie parce que c'est justifié ou non, je ne sais pas.
Alors que faut-il faire selon vous pour que la France retrouve confiance et une influence dans plusieurs pays d'Afrique francophone ? Est-ce qu'elle doit par exemple, est-ce que les dirigeants français, en particulier le président de la République, doivent écouter un peu plus les responsables de la DGSE, voire les diplomates du Quai d'Orsay ?
Je continue de penser que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une présence. Avant, nous étions très présents. Il y avait la coopération, il y avait tout un tas. L'AFD était très actif, comme maintenant. Sans cette présence, sans ces relations un peu privilégiées, sans ce soutien et politique et économique avec nos entreprises, nous n'arriverons pas à grand-chose.
Alors, quand vous dites « Afrique, adieu », est-ce que cela veut dire que l'Afrique n'est peut-être plus une priorité pour les services de renseignement français, pour la diplomatie française aujourd'hui, vu le contexte de tension internationale que nous vivons ?
Je pense que et les services secrets français et la diplomatie française obéissent à des directives, voire des injonctions. Pour moi, il me paraît en ce moment assez clair que l'Afrique n'est pas la priorité. Cela dit, c'est méconnaître, c'est ne pas tenir compte de tout ce que l'Afrique peut nous apporter, notamment au niveau économique, industriel, dans les années à venir. Donc, j'espère que c'est conjoncturel et que nous allons renouer ce lien.
Merci beaucoup Jean-Pierre Auger d'être venu nous voir ce matin dans nos studios.
Merci, je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes sur votre antenne.
Merci, je rappelle que vous êtes un ancien officier français, officier du secteur Afrique Noire de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France, et vous avez publié un livre intitulé « Afrique, adieu, mémoire d'un officier du secteur Afrique Noire de la DGSE » aux éditions Mareuil.
Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad.